Il est 18h, nous sommes le lundi 18 avril, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et même le lundi de Pâques, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, et on est reparti pour une demi-heure avec un jeune talent d'aujourd'hui et on le parie de demain. Aujourd'hui, on va parler de patriarcat, de guérison par les pierres et de bougies lumineuses. Mon invité est auteur et acteur. Bonsoir François de Broer.
Bonsoir Christophe.
Vous êtes au petit théâtre au petit Saint-Martin, rue René Boulanger, à Paris, dans le quartier de la République, on va dire, dans le 10e arrondissement.
C'est ça, tout à fait.
Et dans un spectacle qui s'appelle Rencontre avec une illuminée. Alors, comme moi, je ne suis pas du tout illuminée, je suis plutôt très rationnel.
Okay.
Comment on pourrait définir comme forme? C'est un one-man show? C'est une pièce?
On dit seul en scène pour un peu démarquer du one-man show ou du spectacle de stand-up. Moi, je dirais que c'est une pièce de théâtre incarnée par un acteur. Voilà, moi, mes obsessions sont plus celles d'un auteur de théâtre que d'un humoriste. Mais j'accepte tout à fait l'appellation d'humoriste. Je suis honoré.
Et vous avez une envie de raconter votre vie par le théâtre ou pas?
Oui, surtout à travers les situations, c'est-à-dire que j'avais pas d'ambition tellement autobiographique. Il se trouve que ce spectacle est beaucoup plus autobiographique que le précédent, mais
j'avais pas vu le précédent. Il parlait de quoi?
Le précédent, c'était l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes.
Ah.
Il est toujours disponible sur YouTube. Là, on l'a rendu disponible.
On va donner le titre. C'est pour
Loi des prodiges.
La loi des prodiges, donc on peut le trouver sur YouTube. Cette pièce, donc, qui parle de rencontre avec une illuminée. Est née de l'impossibilité d'écrire votre deuxième pièce, ou comme vous le dites, vous avez décidé de monter la troisième avant la deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai travaillé très longtemps sur cette deuxième pièce, enfin sur ce deuxième solo, qui s'appelait Les Performants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le confinement, les reports, tout ça, a rendu les premiers désirs de ce spectacle un peu moribonds avec le temps. Moi, j'ai changé, la société a changé, mon rapport au public a changé. Et j'ai eu envie d'autre chose, d'un autre rapport au public, surtout après tout ce qui s'était passé.
Ça veut dire que quand on écrit une pièce, il y a l'air du temps qui compte et que là, les performances, si on en croit, en tout cas ce que vous racontez pendant le spectacle, qui parlait de masculinisme et de patriarcat, vous pensiez que c'était plus le moment où on avait envie d'entendre?
Alors,
ça,
je ne crois pas du tout que c'était une affaire de thématique. Je ne suis pas aussi, aussi sondié de l'air du temps sur les thématiques. C'était plus intime que ça, c'est-à-dire que le rapport qu'il y avait dans les performances au public était quand même quelque chose de... Voilà, il y avait une envie de mettre les spectateurs face à des problématiques du moment. Je crois que la thématique de la masculinité toxique et de la performance est encore très très présente dans la société. C'est juste que je ne voulais plus la traiter sous cet angle. Et puis j'avais envie surtout d'un autre rapport.
C'était trop frontal, vous aviez l'impression que les gens étaient fatigués de tout ce qu'ils avaient
vécu. Oui, voilà,
vous
aviez quelque chose comme ça.
Plus tendre avec vos spectateurs.
Ah, c'est très juste, vous venez de dire le mot. Plus tendre avec le spectateur, c'est vrai, et plus léger.
Comment on sait qu'on tient un sujet? Est-ce que vous travaillez sur un sujet, sur une situation?
Moi, je fais beaucoup plus confiance à la résonance intime qu'à ce qu'on pourrait dire de l'air du temps. Je ne suis pas très bon pour ça, comme je le disais. Donc, il se trouve que quand même, le mysticisme, c'est une thématique que je traînais depuis très longtemps. J'avais essayé d'écrire un film qui était l'histoire d'un adolescent qui voulait inventer une religion. Ça remonte à assez longtemps. Non, ça, c'était une pièce. Et ensuite, j'ai essayé d'écrire un film aussi sur une errance mystique. Et donc, en fait, c'est une thématique que je traînais depuis très longtemps et des improvisations étaient déjà présentes, que je suis allé rechercher. Donc, c'est vrai que j'ai écrit, entre guillemets, en 2 mois, mais en fait, je suis allé rechercher des improvisations qui étaient déjà là et des scènes qui étaient déjà là.
C'est donc un thème qui vous travaille, vous, depuis longtemps?
Qui me travaille depuis longtemps, oui. Moi, je suis un pragmatique, comme vous. Vous me l'avez confié hors antenne. Un pragmatique, mais j'ai toujours été passionné et inspiré par les mystiques. Et je suis entouré aussi, dans mon entourage, de gens mystiques.
Donc ça fait partie c'est la dimension autobiographique au début du spectacle. Quand vous parlez de... Alors, je ne sais pas si la scène est vraie, de votre mère, de vos grands-parents... Les enfants scouts, tout ça est vrai?
Alors, il y a un tissage, il y a du vrai, du faux, c'est ça que c'est un tissage.
C'est ça qui est amusant de mélanger justement le vrai et le faux, de savoir réinventer une vie?
Ben oui, c'est assez amusant et dans la réalité des faits, dans la vérité, il y a aussi une force de vie, il y a un carburant pour la fiction que j'essaie d'utiliser et qui est très fort. Donc, mais je m'autorise totalement... de me détourner de la vérité. J'essaye de ne pas y coller. Je pense que si je voulais y coller à tout prix, elle ne serait pas suffisamment intéressante.
Et à, l'inverse, Est-ce que la vérité, parce que parfois on dit ça, on dit la réalité est plus forte que la fiction, est-ce que c'est le cas? Vous êtes obligé de retirer plutôt ou vous avez rajouté, ça dépend des, ou ça dépend des endroits?
En tout cas, ce n'est pas le cas dans ma vie. Je pense qu'il y a des vies tellement intéressantes qui dépassent la fiction, comme on dit, je ne trouve pas que ce soit le cas de la mienne. Donc moi, j'ai besoin de la fictionner un peu pour la rendre plus intéressante et dramaturgiquement plus forte.
Pourquoi avoir choisi la forme humoristique sur cette histoire? Parce que vous auriez pu la raconter à la Paul Claudel, puisque finalement c'est une rencontre avec la foi.
Tout
en
à
tout
fait.
Cas, avec une croyante.
Je pense que ce n'est pas complètement contrôlé et choisi. Je pense que c'est une affaire de sensibilité. Je ne me vois pas raconter une histoire sans faire rire. Ça me semble au-delà de mes capacités. Moi, j'adore regarder tout un tas d'autres genres de fiction. Mais c'est vrai que dès que je me mets à raconter, en général, je fais rire. Et voilà. Même si ce n'est pas mon obsession première, mon obsession elle est plus narrative et plus fictionnelle.
Et on dit parfois que certains acteurs disent que faire rire provoque une émotion très particulière. C'est aussi ça? Vous avez besoin du rire de l'autre? C'est que ça vous apporte une émotion?
Oui, ça m'apporte énormément une émotion, une énergie, un sentiment aussi sans doute de sentir utile. En tout cas, je me sens à ma place quand un rire éclate dans la salle. Voilà, je me sens à ma place et utile.
On va écouter un extrait de votre spectacle, on va parler de chocolat.
Félicia a préparé les cacaos. Et vous allez chacun à votre tour boire une portion, une seule, hein Michel? Une portion de ce merveilleux révélateur de l'âme qu'est les cacaos sacrés. Un révélateur riche en fer, en magnésium, en vitamines, avec des vertus anti-inflammatoires. Mais surtout, un puissant révélateur de nos désirs les plus inavoués. Simone, en tant que nouveau venu, à toi l'honneur. Avant de boire, tu peux demander quelque chose au cacao. Tu peux le demander dans ta tête ou à haute voix pour que tout le public entende. Je voudrais que le cacao me guide dans ma quête spirituelle et dans l'écriture de mon spectacle. C'est beaucoup demander au cacao. Mais si tu écoutes bien, il te guidera. Gracias, Felicia.
Le cacao vous a guidé alors finalement dans l'écriture? Parce que là c'est vous qu'on entend, vous faites les deux personnages. Et il y en a combien de personnages d'ailleurs que vous faites en même temps?
Alors je ne sais pas, c'est une question qui revient souvent, je dirais une vingtaine, mais des principaux il y en a une dizaine. Mais il y a des petits personnages qui apparaissent comme ça, il y a des figurants quoi.
Mm-hmm. Et donc le cacao alors ça marche?
Le cacao je ne sais pas, alors là c'est l'instant déception. C'est vraiment toute la partie où il commence à faire des expériences ésotériques, je ne l'ai pas vécu. Avant, il y a quand même beaucoup d'improvisations qui sont nées du vécu. À partir de ce moment-là, ce n'est pas vécu, je ne suis pas allé jusque-là. Je n'ai pas pris d'ayahuasca, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est une référence à l'ayahuasca ». Mais, mais ça justement, je trouvais ça assez drôle qu'ils vivent une révélation à travers cette pratique-là du cacao, qui est quelque chose qui existe vraiment, le cacao sacré. Il y a des cérémonies, c'est de plus en plus à la mode. Donc voilà, ça m'amusait de reproduire une cérémonie du cacao.
Alors, on ne l'a pas encore dit, mais donc rencontre avec une illuminée, c'est une vraie rencontre que vous avez faite avec une femme qui accepte qu'on l'appelle illuminée, elle? Comment elle a vécu?
Elle l'accepte d'autant mieux que c'est elle qui m'a embarqué dans une aventure, dans cette aventure d'écriture, puisqu'en fait, les Plateaux Sauvages lui ont consacré une carte blanche pendant 2 jours, un week-end. Elle s'appelle donc Estelle Meyer, elle est comédienne et chanteuse. Dans le spectacle, je ne le dis pas parce que je voulais rester plus flou sur sa profession. Mais et donc il y avait cette carte blanche, elle m'a proposé de venir écrire quelque chose et intuitivement je me suis dit dans ce cadre-là, quasi familial, ça va être facile d'écrire plus, de manière plus autobiographique et je vais écrire sur nous, sur notre relation. Et tout de suite j'ai pensé au thème du mysticisme qui est quelque chose qui nous oppose tendrement. Et donc j'ai écrit en 2 semaines une trentaine de minutes et j'ai pris plus de plaisir à jouer ces 30 minutes que ces 3 ans de travail sur les performants. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les improvisations des performants, mais dans la construction, disons, du spectacle, j'avais du mal. Là, ça s'est construit de manière très évidente parce que c'était dans ce cadre-là. Et du coup, ça m'a permis de mettre ce coup de pied à la pudeur et de me dire, je le prolonge, j'en fais une version longue. Et de toute façon, c'est autobiographique. Puisqu'il s'agit d'une amie, il était évident que je me mettais en scène aussi. Mais je change les prénoms pour prendre toute la liberté possible.
La prolongation, c'est dans tout ce que vous rajoutez sur votre enfance, sur votre famille?
Ouais, c'est plutôt ça. C'était quand même présent dans la demi-heure. Mais oui, c'est vrai que là, j'ai rajouté là-dessus, tous les scouts, le grand-père, tout ça, ça s'est rajouté pour la version longue. Je me suis dit que c'était cohérent d'avoir une première partie qui se passe comme ça dans une famille bourgeoise avec les restes du catholicisme, et ensuite une rencontre avec ce type qui s'affirme comme non-croyant, et puis ensuite cette rencontre et ces expériences multiples, mystiques et ésotériques.
Comment vous faites, alors je ne sais pas si vous avez travaillé avec Estelle, j'ai oublié son nom, pardon.
Estelle Meyer, oui.
Et avec sûrement d'autres personnes. Mais comment on sait qu'on ne va pas trop loin? Vous, par exemple, il y a un moment qui est très drôle, qui est la mort du grand-père, de votre grand-père en tout cas, du grand-père de Simon, puisque le personnage s'appelle Simon, on va parler de Simon.
Ouais.
Là, on est sur quelque chose de très scabreux. Comment on mesure ça?
Comment ça
Comment on sait qu'on ne va pas aller trop loin dans l'humour, qu'on rit? Parce que...
Je ne sais pas, sans doute peut-être que pour des gens ça va trop loin, je crois que ça c'est assez subjectif, mais ce qui revient beaucoup dans les retours, c'est que justement on me dit qu'il y a toujours il y a cet aspect parodique et moqueur, mais il y a toujours une forme de tendresse, une forme d'hommage. Je sais qu'il y a des gens extrêmement mystiques qui sont venus me voir et qui ne sont pas du tout, qui ne se sentent pas mal jugés par le spectacle. Voilà.
Il y en a d'autres qui ont eu des révélations? Justement, parce qu'on
mais je reçois des messages incroyables, parce qu'en fait quand on aborde un thème dans un spectacle, ça invite les gens à se confier autour de ce thème, et c'est vrai que je reçois des messages sur certaines expériences mystiques et même des témoignages assez touchants, et c'est formidable de
et des souvenirs d'enfance, des choses,
des souvenirs d'enfance, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette tentative de s'affirmer au sein de la famille, sur le plan de la croyance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça résonne chez les gens.
Très bien. On écoute un peu de musique.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles. Bientôt vous serez à court, non. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Et aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, ne change. Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, ne change.
Pierre de Mer, un jour je marierai un ange, c'est une autre façon de faire une rencontre avec une illuminée.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et oui, car on est toujours avec François de Brouwer pour Rencontre avec une illuminée au Petit Saint-Martin, rue René Boulanger. Je ne vous ai pas demandé les jours de... Non, pas de diffusion, mais les jours où vous jouez.
Alors, c'est du mardi au samedi et c'est une semaine sur deux, soit à 19h, soit à 21h. Voilà, ce qui laisse le choix aux gens de manger avant ou après le spectacle.
Pas pendant.
Pas pendant. D'accord. Ceux-ci peuvent éviter. Moi, ça m'arrange.
Il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, que vous jouiez tous les rôles. Comment on travaille, c'est littéralement une performance, parce que vous, en un claquement de doigts, vous changez de personnage. J'aurais presque envie de vous demander de le faire là, mais parce que j'ai trouvé ça tellement prodigieux. Comment vous travaillez ça, comment
c'est un langage particulier avec lequel on s'acclimate, et puis au bout d'un moment, ça devient comme un second langage. C'est vrai que quand j'ai commencé à improviser, je ne pensais pas improviser de cette manière-là. C'est évidemment les spectacles de Philippe Cobert qui m'ont inspiré cette manière d'écrire et de travailler. Puisque Philippe Cobert est un acteur très virtuose, mais je me suis rendu compte assez vite que c'était aussi une manière d'écrire très particulière, c'est-à-dire de s'affirmer comme un auteur de fiction, un auteur de théâtre, en étant seul en scène et en composant.
Lui, il fait même le fil du téléphone, hein. Il peut faire le téléphone.
Il fait tout. Les objets, il fait les décors, et voilà, moi c'est dans cette même continuité, c'est vrai que voilà, je dessine aussi les décors dans l'imaginaire des spectateurs.
Ouais, et donc ça, c'est aussi un travail au moment de l'écriture, parce que bien évidemment un dialogue, vous ne pouvez pas vous couper vous-même, c'est difficile, vous ne pouvez pas vous... pas y avoir des voix l'une sur l'autre par exemple, comme ici.
Non, c'est vrai, oui, c'est vrai, à la fois ça limite et en même temps c'est, tout est possible, puisque tout repose sur l'imaginaire du spectateur, on peut aussi l'emmener où on veut. Et ça pour moi c'est vraiment l'essence du théâtre, et ça rejoint les grands auteurs, ça rejoint Shakespeare qui passait avec une petite plaque en bois, avec un château dessiné pour expliquer aux gens qu'on était soudain dans un château. Et finalement, le théâtre, il suffit de signifier et on est dans le décor.
Si on revient à la question, enfin je ne sais pas, en tout cas à la question de la foi, à la croyance, en voyant la pièce telle que vous nous présentez, donc Simon et Estelle, je crois, non, elle s'appelle Stella dans la pièce, il ne faut pas que je me trompe, ouais. Pardon. La grande différence, j'ai l'impression, c'est qu'elle est capable d'affronter cette question métaphysique joyeusement, alors que Simon, lui, a l'air d'être complètement anxieux et incapable d'affronter ça légèrement.
Ben oui, c'est peut-être là une des questions philosophiques. J'aime bien quand Joël Pommerin a dit que faire du théâtre, c'est faire de la philosophie en amateur. J'aime beaucoup cette idée. Et c'est peut-être une des questions philosophiques, c'est est-ce que la religion et les mysticismes, même au-delà de ça, les pensées magiques, est-ce que c'est des réponses à des anxiétés profondes humaines? Quand on regarde l'histoire des religions, on se rend compte que c'est une théorie qui se tient, puisque les premiers dieux, des premiers hommes étaient les éléments qu'on ne comprenait pas, il y avait le dieu orage. Et donc oui, il y a une forme d'anxiété, et je crois que les rituels mystiques et ésotériques, je pense, nous aident à affronter une forme d'anxiété. Je sais pas.
Vous diriez de Simon qu'il est malheureux de ne pas arriver à croire? En tout cas, il reste face à son anxiété, il n'arrive pas à...
Je crois que, en tout cas, cette posture athée est difficile à tenir. Ouais.
Ouais. Je vous propose d'écouter deux autres illuminés. Ouais.
En principe, dans une année normale, je travaille au moteur quand il pleut. Mais comme cette année ne pleut jamais, il faut bien que j'y travaille un peu quand il fasse beau, sinon il ne se finirait pas pour le mois de mai. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein.
Tu mettras des ampoules dedans?
Ah ben, tu sais bien que je mets deux ampoules, comme à l'habitude.
Comme à l'habitude?
Je mets, ben, comme dans les deux autres, quoi. Je mets deux voyants lumineux, c'est bien dans le moteur. Bon, ben, de toute façon, je te le dis, tu l'oublies. Alors, c'est... je te le dis la fois d'après. Quoi.
Ça fait une occasion de parler. Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut...
Oh là là, quand je serai posé, maman, j'aurais fait un grand voyage déjà. Si ça se pose, que quand ça doit se poser, pensons aussi au retour, tu sais. Parce que là, ça va être...
Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller.
Ah non, non. J'inverserais la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, peut-on pour partir.
Ouais.
Et puis pour revenir, ben, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Ce qui ne sera pas quand même si facile à réaliser que ça.
Et tu crois que si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas?
Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de troisième dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la quatrième dimension que d'y aller. Parce que la troisième dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables.
Je viens de demander quand tu seras en l'air, comment, à quoi tu penseras.
Ah, voilà la grosse question. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu ne sois pas éventuellement menacé, pour qu'on ne tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu ne sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est...
Alors, 4...
C'est extraordinaire.
Alors là, elle est en train de compter des oignons. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle Striptease, une émission belge qui a longtemps été diffusée en France. On mettra évidemment l'extrait sur le site de l'émission. C'est un extrait d'un reportage qui s'appelle... Le perroquet et la soucoupe. Alors en fait, c'est un garçon et sa mère. Elle a
un
été
garçon, très... un vieux garçon.
Un vieux garçon.
Si je me souviens bien.
Un vieux garçon et sa mère. Elle a été très marquée par un perroquet qu'elle a beaucoup aimé. Elle vit avec son cadavre qui est bien caché et avec lequel elle veut être enterrée à tout prix. Et lui, pensant là, construit une soucoupe terrestre.
Tout à fait.
En bois. Mais on est presque dans l'art brut. Est-ce que vous avez réécouté des gens comme ça pour écrire votre pièce? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a nourri? Parce que là, on est dans la foi. Il faut y croire qu'elle va décoller un jour, cette fusée. Cette conversation est surréaliste quand on les voit.
C'est surréaliste. Là, on parlait au début de l'émission de la réalité qui dépasse la fiction. Je pense qu'on est dans ce cas-là. Ça a dû m'inspirer parce que je les ai tous regardés, les striptease. J'aime beaucoup. Mais ce que je trouve fascinant dans cet extrait, et ce que je trouve très, très beau et très touchant, c'est qu'en fait, on a quand même affaire à une mère qui soutient son fils, quel que soit son projet. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ça très touchant. Après, moi, je suis peut-être plus sensible aussi à ces histoires de famille. Mais en effet, je pense que si on avait écrit ce dialogue-là, on nous dirait, bon, c'est un peu trop, là, c'est un peu délirant.
Ce qui est formidable dans ce dialogue-là, et un peu aussi dans les personnages que vous interprétez, c'est ce mélange de rationalité pure, parce qu'il y a une vraie question qui se pose, comment tu vas revenir?
Oui.
Et de délire complet, je trouve que le frottement entre les deux est tout à fait
comment,
quelque chose
comment
de génial.
Comment faire passer de la pure invention pour quelque chose de crédible? Oui, c'est intéressant, ça fait des belles scènes.
En repensant à votre spectacle et en préparant cette émission, je me disais que c'était bizarre finalement qu'un acteur ne croit pas, parce que vous, votre métier, c'est de faire croire à tout le monde. Et là, particulièrement, vous êtes sur un plateau nu, cerné par des bougies, pendant 1h10, 1h20.
C'est peut-être...
Vous faites croire que vous êtes 20 personnes.
C'est peut-être la clé de ce spectacle. Je ne sais pas, je ne veux pas trop influencer les gens qui vont venir. Mais en effet, moi, dans ma vie, je crois que la plupart de mes pulsions mystiques, je les mets dans le travail, dans mon rapport au théâtre, à cet art-là. Je me rends compte que, mine de rien, c'est assez ritualisé, mon rapport au travail. On répète les mêmes mots, on reprend les mêmes postures. Et puis aussi, moi, j'ai des pensées magiques, j'ai des mantras avant de jouer. Donc, en effet, je pense que mon mysticisme, je le mets dans le théâtre. Quoi.
Et vous pensez qu'il y a un lien entre le théâtre, évidemment, dans les temps très anciens, il y en avait, mais il reste toujours un lien entre le théâtre et la foi et la croyance?
Pour moi, oui. Comme je le dis dans le spectacle, à un moment donné, le Simon dit à sa mère, j'allais à l'église, je trouvais les histoires intéressantes, mais je trouvais que les prêtres jouaient mal. C'est vrai qu'il m'arrivait de penser ça. Moi, quand j'allais adolescent à l'église, je me disais, c'est dommage qu'ils racontent mal les situations qui sont intéressantes. Donc, en effet, j'avais l'impression qu'il y avait une rivalité entre le travail que fait le prêtre et le travail de l'acteur. Et puis après, étymologiquement, la religion, c'est relier les gens. Et moi, j'ai l'impression à la fois intimement de me relier aux autres à travers ce métier et aussi de fédérer. Quand je parle des messages, des témoignages que je reçois après le spectacle, il me semble que voilà, ça crée un dialogue, ça crée un lien.
Alors vous pensez que c'est une époque où les comédiens n'étaient pas enterrés? Enfin, je sais, là, je pars dans un délire tout seul, en vous écoutant. Mais si les comédiens n'avaient pas le droit d'être enterrés religieusement, c'était parce qu'ils faisaient concurrence aux prêtres?
Ben, sans doute. Je ne suis pas assez calé sur cette période et sur l'histoire des comédiens. Mais c'est vrai qu'en effet...
Ouais,
il y a une forme de concurrence. Il y a quelque chose, en tout cas avec l'incarnation, la capacité d'incarnation d'un personnage jusqu'au trouble de se dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, qui pouvait perturber en effet la religion.
On va revenir à votre spectacle. Je ne sais pas si vous aviez suivi ce débat. Je crois que ça tournait autour de... J'ai pas retrouvé la trace d'un comique qui s'appelait Océane, qui maintenant s'appelle Océan, qui parlait d'un rire inclusif, de rire avec et pas de rire contre. Est-ce que vous êtes, parce que vous, on rit avec, on rit jamais contre dans votre spectacle, est-ce que c'est aussi quelque chose auquel vous êtes très attentif? Vous voulez pas être moqueur, méchant, ou ça se
non,
comme
mais,
ça
Non, mais je vous avoue que je théorise pas du tout. Mais je pense qu'en effet, c'est ça qui ressort, c'est ça qui y arrive. Voilà, moi j'aime le rire tendre, j'aime le rire qui propose de se poser des questions, mais qui invite à se poser des questions sans que ce soit obligé. Je pense à Jean-Jacques Sempé, par exemple, qui m'inspire ça. J'aimerais bien provoquer les mêmes types d'émotions que les dessins de Sempé, par exemple.
Joli programme. Un jour, ce serait bien qu'il ait le prix Nobel de littérature, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, parce que vous, ils ne sont jamais ridicules. Ils peuvent être drôles, ils peuvent être perchés, non, mais ils ne sont pas ridicules.
Moi, je trouve ça très intéressant de mettre en lumière des faiblesses ou des illusions, parce que c'est très, très drôle, très efficace. Mais je trouve que ça marche vraiment que lorsqu'on repère en soi la source de cette faiblesse. Et du coup, je m'attelle ou je m'amuse à traiter de faiblesses que je connais un peu, que j'ai repérées aussi en moi, pas que chez les autres. Et donc, du coup, voilà, je suis aussi en intimité avec chaque personnage, avec chaque problématique.
Ouais. Et vous avez progressé maintenant dans l'écriture de votre deuxième pièce ? Ça sera la troisième ou pas ? Vous êtes revenu au performant ?
Non, j'y suis pas revenu encore. Là, j'essaie vraiment d'accompagner la naissance de ce troisième spectacle et puis sa diffusion. J'y suis pas revenu, c'est une question. Mais comme je vous disais sur la thématique du mysticisme qui est revenue dans ce spectacle, alors que j'avais fait des tentatives d'écriture de films, de pièces, je me dis que ça reviendra. Il y a des situations, il y a des improvisations, il y a des personnages, tout ça. Il y a de la bonne matière. Ça reviendra, je sais pas comment, peut-être aussi dans une écriture plus collectif, parce que j'ai aussi envie d'écrire pour d'autres interprètes, j'ai envie d'écrire du cinéma et du théâtre pour d'autres interprètes. Donc je ne sais pas sous quelle forme ça reviendra, mais ça reviendra, ça trouvera sa place.
Mais d'ailleurs, il y a un tout petit morceau de soir, je ne sais pas si c'est un morceau que vous avez extrait du spectacle, que vous avez inséré dans Rencontre avec une illuminée.
Oui, c'est un morceau des performants. Oui.
Vous parlez de votre vie intime,
ouais. Celle du personnage.
Oui, de la difficulté d'être un homme.
Oui, oui. Bah, c'est un type qui parle avec sa bite, avec son sexe. Voilà, et c'est vrai que, alors ça peut paraître graveleux comme ça, mais
c'est très drôle.
Mais c'est une conversation finalement assez pudique, voilà, d'un homme avec son sexe.
Donc là, cette pièce-là, vous continuez à la jouer à Paris jusqu'à quand, vous savez ?
Jusqu'au 21 mai, voilà, jusqu'au 21 mai.
Et après, vous allez tourner avec ?
Après, il y a une tournée de prévue sur 2 saisons. L'objectif, c'est de faire au moins 100 de dates et d'aller dans le plus de villes possible, quoi.
Et vous allez rejouer avec d'autres ? Vous avez envie de ça ? Est-ce qu'au bout d'un moment, on a besoin des autres ?
Moi, j'ai absolument besoin des autres. Je ne fais pas du tout du solo parce que
vous ne détestez pas, parce que je déteste les autres.
Non, au contraire, moi, j'ai l'impression de faire du solo pour me présenter le mieux possible aux autres. Et en tout cas, je pense que quand on vient voir mon spectacle, on sait à qui on a affaire, à la fois comme acteur, comme auteur. Donc, on connaît mon univers. Donc, quand on me fait une proposition, j'ai l'impression qu'elle est plus juste. Et moi, je fais ça aussi pour me présenter aux autres et pour travailler avec les autres.
Est-ce que jouer cette pièce depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même,
ouais,
ça a fait bouger quelque chose en vous, dans votre rapport à la foi ou à autre chose ?
Je crois que ça fait bouger des choses. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre et d'une certaine manière, les expériences, comme ça m'amène à rencontrer des gens qui font des expériences ésotériques, j'ai envie de me laisser embarquer par ces nouvelles rencontres.
Très bien, bah écoutez, amusez. On vous souhaite plein de belles rencontres, d'amusement. Comme on dit, hein, je crois que le voyage compte plus que la destination. Alors passez un bon voyage et
Merci. Allez
tous au Petit Saint-Martin. Enfin, à chaque fois, j'ai envie de me tromper. À chaque fois, je manque de me tromper. Le Petit Saint-Martin, c'est rue René Boulanger à Paris, c'est le métro.
Métro Strasbourg-Saint-Denis, hein, ou République, ouais, voilà. C'est entre les deux.
C'est entre les deux et vous pourrez voir donc François de Brouwer. Voilà, c'était La Relève aujourd'hui, présentée, préparée par Christophe. La réalisation était double, elle était assurée par Suzanne et Jonathan, un duo, il fallait bien ça pour parler de ces choses mystérieuses de la foi. Vous retrouverez l'émission sur le site internet de Radio Campus, et puis passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris. Au revoir.